L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique dans quelques instants, notre World Tour sur BFM Business avec Ilia Megrawa. Pourquoi les startups indiennes valent-elles mieux que les startups françaises? On verra ça avec notre invité dans quelques minutes. Mais auparavant, notre passion selon Sanet. Et on va s'intéresser à l'intelligence artificielle et les robots qui envahissent le secteur du tourisme. Et on voit ça avec vous et vos invités, Aurore Giraud.
Alors oui, François, aujourd'hui je m'exporte du côté de La Réunion à l'occasion des 10 ans de Net Managers, événement qui réunit chaque année pure players et entrepreneurs autour de la des problématiques du web. Et pour notre part, nous allons nous concentrer sur tout ce qui est e-tourisme, air-tourisme et plus particulièrement le rapport entre humains et machines dans ce secteur et dans d'autres. Et avec nous aujourd'hui pour en discuter, Patrice Poirot. Patrice, bonjour.
Oui, bonjour.
Patrice est donc directeur informatique cognitif pour Watson, pour le Watson d'IBM, et également avec moi Sophie Lacour. Sophie, bonjour.
Bonjour.
Sophie est donc docteur en sciences de l'information et de communication et fondatrice de Think Robotics. Du coup, je vais me tourner d'abord vers vous, Patrice. Si l'on se souvient très bien de Watson, qui était gagnant au Jeopardy en 2011 exactement, pouvez-vous nous rappeler cependant en quoi consiste exactement cette technologie?
C'est une technologie qui est naissante. Alors, j'aurais juste faire peut-être tout de suite un petit point en disant que ce n'est pas de l'intelligence artificielle au sens où on l'a entendu globalement. La plupart du temps, ce n'est pas un Deus ex machina, etc. C'est simplement quelque chose qui va permettre d'assister ceux qui ont des décisions à prendre. Pour cela, on va combiner un certain nombre de technologies, que ce sont des technologies de traitement du langage naturel, d'apprentissage, de théorie des graphes, etc. Et cette combinaison de technologies va permettre de définir des assistants pour aider à une meilleure compréhension d'un domaine ou d'un phénomène.
Très bien, et du coup, où en êtes-vous dans la technologie? Si j'ai bien compris, vous êtes plus dans la mise en place actuellement?
Aujourd'hui, on est dans la mise en place. Donc les domaines que nous couvrons actuellement sont plutôt autour du domaine médical, autour de l'oncologie essentiellement, dans le domaine du service au client, et là, quelque chose qui est devenu très, très important pour tout le monde, dans le domaine de l'expérience client. Comment améliorer l'expérience d'un client lorsqu'il fait un achat, quel que soit cet achat?
Donc du coup, vous parlez d'expérience client, ça me ramène vers Net Managers, qui se concentre sur le tourisme. Pouvez-vous nous dire en quoi cette technologie est pertinente dans ce secteur? Je sais qu'aujourd'hui, vous avez parlé un petit peu de la start-up Wayblazer.
Wayblazer est effectivement une start-up qui vient de naître. Et elle a été fondée par quelqu'un qui s'appelle Terry Jones, qui est le fondateur de Kayak ou aussi le chairman de Travelocity, et dont l'objet va être d'utiliser la technologie cognitive de Watson de façon à apporter cette expérience client et pouvoir répondre à des questions relativement simples du genre je veux aller voir un grand prix de Formule 1, dans quel virage je dois me positionner et quel est l'hôtel qui va être le plus proche du circuit et dans lequel j'ai le plus de chances de rencontrer des pilotes de Formule 1. C'est des questions de ce type là que l'on peut poser et auquel Watson va apporter une réponse. Non seulement il va apporter cette réponse, mais en plus, il va donner les éléments constitutifs de cette réponse, entraînant par là même une confiance de l'internaute dans la réponse qui lui a été proposée. Cette confiance de l'internaute va générer, bien évidemment, une meilleure expérience client.
Vous parliez également pendant la conférence de tout ce qui est call center. Est-ce que c'est aussi adaptable au secteur du tourisme?
Oui, parce que dans le secteur du tourisme, il y a une utilisation extrêmement importante des call centers. Et dans les call centers, vous le savez, en règle générale, un appel sur deux est non abouti parce que, la personne au téléphone n'a pas forcément la réponse. Donc là, même chose, on va pouvoir mettre à disposition des personnes dans les call centers cette espèce d'assistant qui va permettre de les aider à apporter la bonne réponse le plus rapidement possible et la réponse la plus appropriée, bien évidemment. On ne va plus laisser chercher la personne pendant des heures sur des bases de données de façon à trouver la bonne réponse. Donc, dans le secteur du tourisme et des call centers, Watson a une très grande utilité aussi.
Merci. Du coup, je me tourne cette fois vers Sophie Lacour. Qu'en est-il de la robotique dans le tourisme? Quels types de services sont actuellement visés?
C'est un métier de service, de toute façon. Donc, la grande partie des services du tourisme vont pouvoir être robotisés. L'accueil, bien sûr, mais aussi le desk, mais le room service. Il existe par exemple aussi à l'aéroport de Düsseldorf des robots qui vous garent votre voiture. Donc ça sera aussi possible à ce niveau-là. Ça sera aussi possible, par exemple, dans l'accueil, avec l'accueil dans les musées, comme on le fait actuellement au musée de Tokyo, mais aussi quelque chose qui a été mis au point cette année et qui a reçu le prix Clic France, qui est le petit Norio au château d'Oiron, qui permet aux personnes à mobilité réduite de visiter par l'intermédiaire donc, d'un artefact, d'un robot, des salles inaccessibles aux personnes handicapées. Donc ça va avoir un très grand avenir, je pense, là-dedans, c'est-à-dire dans le tourisme par l'intermédiaire de la machine. Et pas que pour les personnes à mobilité réduite, mais pour tous les touristes, puisqu'on pourra avoir des robots qui iront ailleurs visiter des endroits avant que vous vous déplaciez, par exemple pour voir si l'endroit vous plaît, ou tout simplement si vous ne pouvez pas y aller, sur la Lune.
Et du coup, quel type, physiquement, à quoi ça ressemble actuellement, un robot dans le tourisme, un robot dans le service hein?
Deux tendances complètement opposées qui se dessinent. Le premier, c'est R2-D2. Donc, par exemple, le Savvy One, qui est dans le room service, dans la chaîne Starwood, qui a été mis en route l'année dernière, qui vous amène, donc c'est une petite boîte avec quatre roues, et qui vous amène des sandwichs, des serviettes, etc. Et complètement à l'opposé, on a l'Actroid, donc comme on le au Japon, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un être humain, qui a l'expression de l'émotion, qui a de véritables cheveux, qui a une peau, c'est extrêmement troublant. On est entre les deux. Et on ne sait pas exactement quelle va être la tendance qui va se dégager. Je pense que ça va être en fonction du service rendu.
En matière d'implémentation, dire qu'actuellement, on en est au balbutiement.
Ces machines, de toute façon, par exemple, Saiwan, par exemple, il est incapable de monter un escalier. Donc, il faut le mettre dans l'ascenseur pour qu'il monte devant votre chambre. L'Actroid qui est au musée de Tokyo, il ne bouge pas. Il est incapable de bouger. Donc oui, on en est complètement dans les balbutiements. Mais ça va très, très vite. La technologie se développe extrêmement vite. Il va simplement falloir faire attention dans le tourisme à l'usage. Est-ce que ça sera juste un gadget, et là ça n'a aucun intérêt, ou est-ce que ça va réellement avoir un intérêt dans l'expérience client ou aussi dans l'aide au personnel?
Et donc on parle du futur, c'est aussi le sujet de Net Manager cette année, les Next Big Things. À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines années en matière de robotique?
Alors, à un développement de la nanorobots, c'est-à-dire des robots qui vont être à l'intérieur de vous. Donc là, ça va peut-être pas tout à fait concerner le tourisme, mais ça, c'est évident que ça va se développer.
Donc du coup, je vais me tourner vers Patrice. Du côté du cognitif, qu'est-ce qu'on pourrait voir apparaître?
Là, c'est sûr que on va voir apparaître de plus en plus d'assistants intelligents, entre guillemets, qui, pour toutes les tâches dans tout type d'entreprise, que ce soit pour les chercheurs, de façon à pouvoir lire plus rapidement un grand nombre de pages et à en trouver les extraits les plus intéressants, que ce soit dans des entreprises du tourisme où on va voir se développer des services du type « je veux être à Londres avant 18h20 », proposez-moi quelques options. Donc toute cette notion d'assistant, on va la voir se développer de façon relativement importante dans les prochaines années.
Et plus largement, du côté interaction entre hommes et machines, à quoi on peut s'attendre dans les années à venir? Notamment Sophie, votre conférence s'intéresse à la lovotique, qui s'éloigne un peu du tourisme. Qu'est-ce qu'on peut y voir?
Non, alors ça s'éloigne pas du tourisme parce que le touriste est quelqu'un qui est dans l'émotion. C'est le voyage qu'il a préparé toute l'année, pendant 6 mois il y a pensé, et pendant 6 mois, il va en parler une fois qu'il l'aura fait. C'est de l'argent, un investissement. Donc pour lui, c'est quelque chose qui émotionnellement est très très fort. Donc il faudra des robots qui seront capables de lui donner confiance. Donc déjà Watson, je suis certaine, va très très bien marcher dans les robots parce qu'ils vont permettre d'avoir des réponses qui vont être tout à fait appropriées. Mais il va falloir rassurer la personne. Donc c'est aussi pour ça que la lovotique, c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'on s'intéresse à comment la personne va pouvoir développer une émotion vis-à-vis du robot, pas spécialement pour tomber amoureux de lui, ça c'est plutôt un avatar, le fait de tomber amoureux d'un robot, mais avoir confiance dans le robot et dans les prescriptions qu'il va vous faire. Si c'est un robot, par exemple, qui vous explique comment sauter d'un avion ou d'un bateau, ou qui vous dit des choses un peu grave ou un peu importante, de toute façon il va falloir avoir confiance en lui, sinon ça sera juste une boîte de conserve avec quatre roues et on n'écoute pas les boîtes de conserve avec quatre roues.
Merci. Et donc du coup Patrice, Watson, on sait, vous en avez parlé, est utilisé en ce moment dans le domaine de la e-santé et plus particulièrement de l'oncologie. Est-ce qu'il est envisageable qu'un jour Watson se substitue à l'oncologue, car pour le moment il l'accompagne?
Alors, se substituer, non, parce que de toute façon, aujourd'hui, tous les systèmes d'intelligence artificielle sont basés sur l'intelligence, ce que l'intelligence humaine a déjà produit. Donc, Non. Qu'ils deviennent un assistant extrêmement important, oui, ça c'est évident. Par contre, il y a sans doute quelque chose qui va arriver dans les 10 ans, c'est que lorsque vous irez chez le médecin, votre visite, votre discussion avec le médecin ne sera plus la même, puisque vous arriverez chez votre médecin avec une bardée d'informations qui auront été données par des robots de type Watson ou autre, et votre discussion avec le médecin sera bien différente de celle que vous avez aujourd'hui, du type j'ai mal à la gorge, donnez-moi une aspirine ou donnez-moi quelque chose. Là, vous arriverez avec une compréhension de votre maladie, et le médecin devra de toute façon, lui, être de plus en plus performant vis-à-vis de d'un malade qui sera de plus en plus outillé et performant lui aussi.
Vous évoquiez durant la conférence le rapport de confiance. Est-ce qu'il y a un rapport de confiance qui s'établit actuellement, vous le constatez, entre un oncologue et Watson? Est-ce qu'il est envisageable que ce rapport de confiance apparaisse aussi au niveau du patient?
Oui, parce que je veux dire, si je prends le rapport de confiance entre Watson et un oncologue, c'est simplement, ce rapport de confiance existe parce que je suis capable, derrière une recommandation de Watson, d'avoir les arguments qui ont aidé Watson à proposer cette réponse. À partir du moment où j'ai les arguments, je suis capable, moi, de juger si ces arguments sont bons ou mauvais. Et donc, si j'apporte ces mêmes arguments à un patient ou à quelque chose d'autre, la confiance va bien évidemment grandir, puisque le patient ou l'internaute, peu importe, va avoir lui aussi la capacité, par rapport à un problème, une question qui a été posée, à regarder comment le robot, comment Watson a réagi, quels sont les éléments qu'il a pris en compte pour proposer une réponse. Donc c'est comme ça qu'on amène la confiance. Et c'est bien différent de ce que l'on trouve actuellement, où la plupart du temps, on pose une question, on a une réponse suivant des algorithmes qui sont cachés, on n'a aucune idée et on a l'impression d'être manipulé. Changeons un petit peu cela, donnons les conditions de fonctionnement de l'algorithme, les réponses qui ont été trouvées par l'algorithme, et la confiance va devenir totalement différente.
Merci. Sophie, quelque chose à ajouter?
Le robot, de la même manière, n'a absolument pas vocation à se substituer à l'être humain. Il va aider l'être humain. Ça n'a pas de sens, en fait, de penser que le robot va se substituer. Il va être un outil qui va permettre à l'être humain de faire d'autres choses, de les faire peut-être mieux. Ça sera un accompagnateur, mais en aucune manière quelque chose qui va se substituer à l'humain. Enfin, en tout cas, moi, je ne le pense pas.
Merci Patrice Poirot, qui est directeur informatique cognitive pour Watson d'IBM, et Sophie Lacour, docteur en sciences de l'information et de la communication et fondatrice de Think Robotics. Nous étions donc au Net Manager. Je vous dis à bientôt.
Au revoir.
Au revoir et à bientôt.
Aurore, merci. On revient dans un instant, la suite de cet atelier numérique avec notre World Tour. On va s'intéresser à l'Inde cette semaine et aux startups. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est donc l'atelier numérique sur BFM Business. Merci de nous être fidèles comme chaque samedi, 16h-18h. On va dans un instant retrouver notre World Tour et direction l'Inde avec Lila Megrawa, notre invitée. Mais auparavant, c'est l'Asie, vous le savez, comme chaque samedi dans cet atelier. Et l'Asie, c'est avec Renaud Dormaro.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cet envers, nous allons parler des applications sur mobile. 3 ans après, oui, c'est un peu facile, je sais, mais c'est comme ça. Avec Thomas Meyer, qui est cofondateur de MobileNo. Bonjour.
Bonjour.
Thomas, votre groupe, déjà, rappelez-nous, parce que c'était il y a 3 ans, est spécialisé dans quoi?
Alors, notre groupe s'appelle MobileNo Group, et c'est une entreprise qui est basée à Shanghai, en headquarters, mais qui a aussi des bureaux donc à Changsha et à Singapour, et depuis peu à Hangzhou. Qu'est-ce que nous faisons? Ben, en fait, nous travaillons sur du média riche, sur mobile, donc ça veut dire les applications mobiles, bien sûr, donc iOS et Android, mais de plus en plus, on travaille aussi sur des applications en web app HTML5.
Il y a 3 ans, on avait parlé des applications, il y avait quelque chose qui n'était pas du tout présent, c'était WeChat. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous?
Alors, WeChat a vraiment changé, oui, beaucoup de choses. En fait, c'est même devenu plus de la moitié de notre business aujourd'hui. Donc, on peut dire que ça a tout changé.
Alors, expliquez-nous comment, parce que vous étiez spécialisé dans des choses qu'on téléchargeait sur son téléphone. Maintenant, WeChat, on l'a déjà téléchargé. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous intervenez?
Il y a 2 choses. Alors, la première, c'est en effet WeChat étant un réseau social parfait quand on veut, en fait, atteindre une audience chinoise, permet donc de créer des solutions customisées aux compagnies, aux entreprises ou aux marques qui veulent créer des expériences avec leurs consommateurs. Donc, ces expériences vont de plus en plus, en fait, vers le CRM, vers le service et vers le commerce mobile. La deuxième chose qui a beaucoup changé, c'est que le mobile et de plus en plus mature.
Alors expliquez-nous, parce que mature, vous contrôlez pas les téléphones, qu'est-ce que vous voulez dire par mature? C'est quoi, technologiquement?
Alors c'est technologiquement, mais c'est aussi parce que les comportements ont changé côté utilisateur, mais aussi côté marketeur. Donc les marketeurs sont de plus en plus poussés à rentrer sur le mobile, et ils ont maintenant aujourd'hui des réflexions vraiment différentes d'il y a 3 ans.
Avant, je suppose qu'il y avait des gens qui venaient vous voir en disant, voilà, j'ai fait mon e-commerce sur le web, j'ai fait mon portail sur le web. Maintenant, je pense qu'une petite application mobile, ça serait un plus intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui inversent maintenant complètement la tendance en disant j'ai encore rien fait mais je vais commencer par le mobile?
Oui, ça arrive de plus en plus. On a aussi des clients qui nous demandent d'accélérer en fait des solutions, on va dire, ou des réflexions de roadmap, donc vraiment des logiques d'écosystème avec des applications diverses, des sites internet, des sites customisés sur WeChat qui fonctionnent de façon complémentaire. La maturation, elle est là.
Alors il y a une chose par contre sur laquelle a priori vous n'avez pas tout à fait de pouvoir, c'est l'autre partie de l'écosystème chinois. Donc vous avez d'un côté de la communication avec WeChat et de l'autre partie l'e-commerce avec Tmall. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Alors justement, on peut pas faire grand-chose, nous, sur Tmall. Il y a d'autres acteurs qui sont spécialisés peut-être sur le data analytics sur Tmall ou d'autres choses dont je ne peux pas trop parler, parce que je suis pas un expert. Mais justement, WeChat, c'est là la différence, c'est qu'elle est WeChat a été vraiment réfléchi un peu comme une plateforme à l'occidentale, à la manière, on va dire, de ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, parce qu'en fait, WeChat a vraiment ouvert ses API pour laisser les entreprises créer leurs propres services. Donc c'est vraiment une démarche totalement différente de Tmall. Tmall est extrêmement important parce qu'en termes de volume, le business, les ventes sont énormes, mais WeChat est un réseau social, c'est là où les gens vont tous les jours pour checker leur messages et communiquer avec leurs amis. Et avec maintenant l'ouverture de WeChat Pay, donc du mobile wallet WeChat et de ses API, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On peut créer, en fait, des expériences qui sont extrêmement customisées, qui créent de l'expérience marque, qui créent des transactions et qui rend vraiment le client, on va dire, en contrôle de ce qu'il veut faire.
L'amusant, c'est quand on avait discuté il y a 3 ans, on s'était dit, 2012, c'est l'année du paiement mobile. Est-ce que c'est cette année l'année du paiement mobile, Thomas?
Oui, ça l'est tout à fait, avec bien sûr en Chine, donc Alipay qui prend le lead énorme, à plus de 80%, avec WeChat Pay et Tenpay qui sont deux solutions différentes de la même entreprise, qui sont en challenger mais très agressifs, très actifs, et donc ce serait très intéressant de voir ce qui va se passer cette année en termes de social commerce, en termes de mobile commerce sur ce réseau social, et même en retail, puisque de plus en plus de retail intègrent à la fois Alipay et WeChat Pay en Chine. Après, moi, je travaille aussi sur des projets qui sont plus à l'étranger. Et là, moi, ce qui me sidère, c'est qu'en fait, les solutions de paiement à l'étranger sur le mobile sont beaucoup plus difficiles à l'intégration, beaucoup moins stables. Et là, je pense, par exemple, à des plateformes comme PayPal, qui sont très difficiles à intégrer et qui sont pas aussi flexibles que ce que l'on peut faire ici en Chine.
Alors, revenons quand même sur la base de notre conversation il y a 3 ans, l'application mobile pour les marques. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous demandent ça en disant « je veux absolument mon application mobile pour ma marque », sachant que globalement, on sait que le taux d'utilisation est faible, que la durée de vie d'une application est faible. Pour qui ça marche encore, ce genre de choses?
Et oui, en effet, les apps, c'est une opportunité assez énorme en fait pour les marques, une grosse opportunité de disruption. On vient de lancer un jeu marque. Le Branded Games est vraiment quelque chose qui n'est pas encore bien exploité par les marques. C'est une missed opportunity, on pourrait dire presque. Donc on vient de lancer ce jeu pour Kentucky Fried Chicken en Chine, qui était en partenariat avec le groupe de musique K-pop très connu ici en Chine qui s'appelle EXO. Et on a généré en 2 semaines 20 années consécutives d'engagement. Au bout d'un mois, on était à 30 années consécutives d'engagement. Ça fait beaucoup de brand building, ça fait beaucoup d'utilisateurs. Sachant qu'en plus, pour qu'ils puissent jouer, les utilisateurs devaient aller dans le magasin pour acheter le K-pop meal en question, le Korean meal, avec le petit jouet dans lequel ils allaient trouver un QR code et unlocker un niveau ou un caractère pour jouer. Donc pour jouer, il fallait acheter. Et donc moi, je vous ai donné là les chiffres. Donc bien sûr, ils ont vendu beaucoup, beaucoup de meals.
Mais écoutez, merci beaucoup Thomas Meyer. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Mobile Now Group. Et puis, on se reverra peut-être dans 3 ans pour parler de la suite. Au revoir.
Renaud, merci. Et place à notre World Tour maintenant. Et juste après, ce sera notre rendez-vous avec la rédaction de Zeronet.com, comme chaque samedi. Lila Megraoua. Pour notre World Tour, direction l'Inde cet après-midi.
Tout à fait. On va retrouver Arnaud Auger, qu'on a déjà eu à plusieurs reprises sur d'autres sujets. Arnaud, bonjour.
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 Vous êtes associé chez Startup Bricks vous organisez un événement la semaine prochaine, le 23 juin, à partir de 19h autour des startups indiennes. Pourquoi entreprendre en Inde? Est-ce que vous pourriez nous répondre à cette question? Pourquoi une entreprise française aurait intérêt à entreprendre en Inde?
Bah déjà parce que justement avec la French Tech, on parle beaucoup d'entreprises françaises qui doivent devenir mondiales. Je pense que c'est d'autant plus un impératif à l'heure de l'économie numérique où il y a une seule règle, c'est le leader qui mange tout. Donc soit en fait les startups françaises se décident à être des leaders mondiaux, comme le fait BlaBlaCar qui est venu en Inde, soit elles seront amenées à simplement être mangées par les startups américaines, chinoises ou indiennes qui arriveront sur le marché. Donc déjà la première chose, voilà, c'est vraiment essayer d'avoir de l'ambition et d'avoir de la croissance. Et c'est impossible d'être leader mondial aujourd'hui sans être en Inde. Donc je pense que c'est important de considérer le sous-continent indien.
Voilà, les premiers arrivés seront les mieux servis, c'est ça en gros?
Exactement.
L'intérêt est-il également sur la qualité, par exemple, des développeurs indiens?
Oui, voilà, c'est vrai que l'Inde, c'est d'abord un marché. Voilà, on pense beaucoup aux 1,2 milliard d'habitants, mais faut pas oublier surtout la classe moyenne supérieure. Voilà, on a 300 millions de consommateurs qui vivent dans un foyer à 3 000 $ de parité de pouvoir d'achat. Mmh. Et vous avez aussi des ressources. Et parmi ces ressources, voilà, vous avez près de 2 millions de personnes qui travaillent dans le secteur de l'IT, qui sont reconnues, qui du coup, notamment compose de 30% des ingénieurs d'Apple. Donc si Apple était connu pour faire des produits low cost, ça serait. Et du coup, ils ont quand même des ingénieurs indiens. Vous avez beaucoup d'ingénieurs indiens dans la Silicon Valley. Mais vous en avez aussi beaucoup en Inde, puisque voilà, tout le monde n'a pas le droit à des visas américains. Et vous avez aussi beaucoup de talents qui restent en Inde et qui veulent aussi saisir les opportunités du marché indien. Mmh. L'Inde est un pays avec plus 8% de croissance, donc ils veulent aussi rester dans leur pays et développer leur pays.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de Silicon Valley indienne? Est-ce qu'il y a une ville qui se détache?
Oui, tout à fait. Vous avez près de 50% des startups indiennes qui sont à Bangalore. Bangalore, qui est vraiment une ville qui a émergé grâce à la tech et grâce au secteur de l'IT. Vous avez près de la moitié des habitants de Bangalore qui travaillent de près ou de loin dans le secteur de l'IT. Donc oui, c'est une vraie Silicon Valley qui s'étend du coup jusqu'à Chennai et à Hyderabad notamment. Donc dans ces trois villes et entre ces trois villes, vous avez beaucoup d'universités IT et beaucoup de talents et d'entreprises qui viennent s'implanter ici. Ouais.
Alors ça fait près d'un an et demi, il me semble, que vous êtes installé en Inde. Oui. Vous allez présenter plusieurs startups indiennes la semaine prochaine à Paris. Quels sont, de ce que vous observez, quels sont les points forts, mais aussi les points faibles des startups indiennes?
Le point faible pour l'instant, c'est que le niveau de maturité de l'écosystème startup indien est pas non plus aussi fort que l'écosystème américain ou français. Le niveau du commerce en Inde est à peu près au niveau du commerce français au début des années 2000. Par contre, la force, c'est que en effet, ils peuvent aller plus vite. Pour autant de fonds, vous pouvez avoir beaucoup plus de développeurs. Mmh. Vous avez beaucoup de micro-marchés. D'une ville, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui peuvent vous permettre de tester votre application. Et puis, vous avez un marché local qui est suffisamment conséquent. Je pense que la force des startups américaines, c'est qu'elles peuvent d'abord se concentrer sur leur marché local avec 300 millions d'habitants avant de devenir global, ou parfois en pensant global dès le début. Les Indiens peuvent faire ça aussi. Il y a que les États-Unis, la Chine et l'Inde qui ont peut-être des marchés domestiques suffisamment grands pour permettre aux entreprises de se concentrer sur un seul marché et se développer. Et les startups indiennes le font. Et les startups indiennes ont aussi cette force de savoir s'adapter aux contraintes spécifiques des pays émergents, notamment en termes de connexion. Et pourquoi pas de viser aussi d'autres pays émergents en Afrique, en Amérique latine, qui ont des mêmes problématiques en termes de connexion.
Bah Arnaud Auger, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes associé chez Startup Bricks. Et puis, si nos auditeurs souhaitent approfondir le sujet, je les invite à se rendre à l'événement avec énormément de start-up indiennes la semaine prochaine, le 23 juin, à Be Coworking dans le 17e arrondissement à Paris.
Merci beaucoup.
Merci pour plus d'infos, startupbricks.com.
Merci Arnaud. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Vous restez là, direction la rédaction de Zeronet.com pour jeter un œil sur les gros titres d'actualité dédiés donc aux nouvelles technos. On va parler notamment de l'E3, ce grand salon du jeu vidéo qui s'est déroulé à Los Angeles. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Avant de se dire au revoir, avant de se retrouver la semaine prochaine et avant aussi de retrouver le crash test d'Antoine Cyr, ça sera dans quelques secondes. Direction la rédaction de Zeronet.com avec la directrice des rédactions qui est avec nous en ce samedi. Je suis ravi d'accueillir Delphine Sabatier. Bonjour Delphine.
Bonjour François.
Delphine Sabatier donc qui va nous faire un point sur les plus gros titres d'actualité de cette semaine qu'on a pu lire sur Zeronet.com avec pas mal de rumeurs. Delphine, pour commencer, concernant l'Apple Watch, alors qu'elle vient de sortir, l'Apple Watch, on parle déjà de la deuxième édition.
Ouais, c'est déprimant pour ceux qui ont mis quand même le prix fort là.
Voilà. Et qui n'ont pas encore reçu et qui l'ont commandé.
Exactement. Plus. Alors, voilà. Il y a déjà eu les annonces pendant la conférence Apple pour dire qu'il allait avoir un WatchOS 2.
Oui.
Avec des améliorations, notamment FaceTime. Alors, on s'en a tous sauté de joie, mais on s'est dit, mais comment on fait pour la vidéo? En fait, FaceTime audio. Là, la rumeur qui est tombée cette nuit, c'est qu'on aurait du FaceTime vidéo, l'apparition donc d'une caméra en façade de l'Apple Watch pour la deuxième version qu'on attend en 2016.
D'accord. Bon, c'est bizarre parce que d'habitude vous avez votre Apple Watch au poignet là, Delphine, et puis mais que
se passe-t-il?
Je suis fâchée.
Ça m'a déprimée.
Ah, c'est pour ça, d'accord.
Et alors autre nouveauté intéressante, c'est qu'il y aurait une puce Wi-Fi aussi embarquée dans la Watch.
D'accord.
Ce qui permettrait de faire plein de choses sans avoir son téléphone à côté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu handicapé parfois pour répondre à des mails, envoyer des SMS. Donc là, on aurait plus d'autonomie. Ce serait vraiment Noël, mais ça veut dire que dans un an, faut, je sais pas, revendre sa watch avec peu d'espoir d'en tirer un bon prix.
L'Apple Watch édition qu'on a payé 15 000 euros.
C'est ça.
Ça va être un peu compliqué.
Enfin, j'ai pas pris celle-là quand même.
Ah bon, bon, voilà, c'est vrai. Mais elle est très belle, la vôtre aussi.
Merci beaucoup.
On enchaîne avec Microsoft maintenant. Microsoft qui a présenté à la presse cette semaine une nouvelle version de Skype qui traduit en fait, en temps réel, ce que vous dites dans une autre langue.
Ouais, Skype Translator, c'est assez sympa à utiliser. Vous l'avez testé d'ailleurs.
Oui, je l'ai testé. Il y a une vidéo qui vous attend sur Zeronet TV. Oui.
Ouais, super. Donc, en fait, le principe, c'est pas de la traduction écrite. Là, on est vraiment à l'oral. C'est-à-dire qu'on est en train de parler à son interlocuteur et en temps réel, le petit logiciel derrière Skype analyse ce qu'on est en train de dire et le transmet à l'écrit à notre interlocuteur. Alors là, il y a combien ? 5 langues qui étaient déjà 4 pardon, qui étaient déjà disponibles, anglais, allemand, espagnol, mandarin, et là on est sur la bêta en français. Ça existe aussi à l'écrit. C'est toujours intéressant de le savoir. Il y a 50 langues maintenant. C'est-à-dire que Skype est devenu un outil très, très intelligent.
Tout à fait. Et alors, pour l'avoir testé, c'est quand même incroyable parce que vous avez l'impression d'avoir un interprète qui traduit, qui vous traduit dans la langue que vous voulez, ce que la personne qui est en face de vous raconte. Alors, c'est un petit peu lent. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps de latence. Parfois, on est obligé d'attendre quelques secondes avant que la traduction se fasse, mais c'est quand même assez bluffant.
C'est vrai. Je trouve que c'est pas gênant parce que finalement, on entend quand même l'autre personne. Oui. Donc, si on a compris un petit peu, ça permet de patienter. Et la validation par écrit permet de tout bien clarifier. Visiblement, il y a 7% de taux d'erreur.
Voilà.
Donc c'est assez fiable.
Ouais, la reconnaissance vocale marche bien, la traduction aussi. C'est complètement gratuit, bien évidemment. Et ça va arriver aussi sur les smartphones, hein, iOS, Android et Windows Phone, bien entendu.
Et déjà Windows 8 et 10.
Tiens, puisqu'on parle de Windows, si on parlait de Nokia aussi, qui, rappelons-le, en tout cas la branche mobile a été rachetée par Microsoft il y a 2 ans de cela, eh bien c'est pas complètement terminé pour Nokia pour les smartphones, visiblement.
Oui, alors il y avait déjà eu des rumeurs sur le retour de Nokia sur le marché des smartphones, ça avait été démenti. Voilà, c'est le directeur général lui-même qui confirme. Donc, ce qui finalement va changer, Nokia avait demandé à ce que Microsoft n'utilise pas sa marque. Mais là, ce qui change, c'est que finalement, Nokia va accorder des licences de marque. Donc, il va concevoir des appareils pour d'autres qui pourront éventuellement utiliser la marque Nokia sur des smartphones. Alors, ils avaient déjà fait une première sortie assez surprenante avec une tablette,
oui.
La tablette N1, vous avez vu aussi au Mobile World Congress. Donc là, ce serait sur des smartphones. Voilà, c'est un peu l'info étonnante de la semaine.
Comment contourner en fait un accord qu'on a pu passer avec une grande boîte qui est Microsoft. Voilà.
Exactement.
Comme quoi Nokia ne veut pas lâcher le smartphone. Hein. Cela dit, ils sont vraiment très puissant dans le B2B du smartphone, c'est-à-dire dans tout ce qui est réseau, puisque rappelons-le, hein, aujourd'hui, la plupart des opérateurs, si vous captez de la 3G ou de la 4G, c'est entre autres à cause de ou grâce à Bouygues, à donc Nokia, mais aussi Huawei, etc., à d'autres équipementiers. On va enchaîner maintenant sur la loi sur le numérique. On va enchaîner maintenant sur la loi concernant le numérique, la fameuse loi de Manuel Valls.
Alors oui, il a présenté sa stratégie, la stratégie du gouvernement, avec quelques points importants qui me semblaient plutôt positifs à signaler, notamment inscrire dans un projet de loi qui sera présenté fin juillet, la neutralité du net, mais aussi la portabilité des données perso, c'est-à-dire que ce que voudrait le gouvernement, c'est qu'on puisse, quand on change de prestataire de service, de mail, récupérer toutes nos données et tout transférer notre musique également. Alors à mettre en œuvre.
Ça c'est plutôt une bonne idée. Sur le papier c'est sympa, mais à mon avis techniquement c'est pas gagné.
À mettre en œuvre, ça me paraît compliqué, mais entre services français. C'est tout à fait envisageable. On a bien fait la portabilité du numéro. On peut faire la portabilité des données.
Le problème, c'est qu'on est tous sur Samsung ou sur Apple. Donc ça va être un peu compliqué. Mais bon.
Autre volonté du gouvernement, un droit au maintien de la connexion. Alors ça, c'est pour les plus démunis. Ça deviendrait une sorte de service universel. Il faudrait laisser une connexion à Internet, même si on peut plus payer sa facture de téléphone ou d'électricité.
Ah oui, un peu comme aujourd'hui, c'est le cas avec l'eau, je crois, ou l'électricité. C'est
exactement.
Ça, hein.
D'accord. Et là, l'idée, c'est surtout pour les recherches d'emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire sans Internet, ça devient compliqué.
Ça aussi, c'est plutôt, ça part d'un bon sentiment. C'est plutôt pas mal.
Complètement.
Je pense que les opérateurs vont être contents aussi.
Ouais. ça dit, les opérateurs avaient un peu pris les devants. Free avait fait une connexion gratuite pour les plus démunis.
Oui. Bon.
Open Data aussi qui serait inscrit dans un projet de loi, c'est-à-dire que systématiquement l'État s'engagerait à diffuser ses données au public. On veut aussi, pour l'emploi, créer un pôle emploi.
Le pôle emploi store, on va télécharger des applis pôle emploi. Ah,
exactement, et on va trouver du travail hyper facilement. Et une école du numérique, ça Axel Le Maire en avait déjà parlé, une grande école du numérique qui serait lancée en France. Donc ça vient, je dirais, en plus des campus Samsung, des écoles 42 de Xavier Niel. Là, c'est l'État qui investirait dans la formation de nos petits chérubins. Et aussi, alors ça me paraît un petit peu plus compliqué, mais c'est peut-être plus B2B, une agence de notation de la loyauté des services web. C'est-à-dire s'assurer que, par exemple, Google ne met pas forcément d'abord en avant ses propres produits.
Ce qui n'arrive jamais, bien évidemment, hein, Delphine. On le sait
voilà,
tous.
Voilà, c'est vrai que c'est tentant en même temps. Hein. Donc ce projet de loi aussi, ce qui est sympa, c'est qu'on va tous pouvoir le critiquer, l'amender, faire des propositions, puisqu'il va être mis à dispo sur Internet avant de passer en Conseil des ministres en juillet.
Très bien. Bon, eh bien, écoutez, on va suivre ça de près. Vous parliez tout à l'heure d'école numérique et c'est vrai que cette semaine, on a visité le campus Samsung au nord de Paris. Une école très intéressante qui forme chaque année entre 50 et 100 étudiants qui n'ont pas le bac. Hein, pour la condition pour rentrer dans cette école, c'est un peu comme celle de Xavier Niel, l'école 42, c'est qu'il ne faut pas avoir le bac. La petite différence, c'est que dans l'école de Xavier Niel, on peut rentrer même si on a le bac. Là, vraiment, il ne faut pas avoir le bac pour pouvoir rentrer. Et l'idée, c'est de vous apprendre le développement du web. Et au bout de 2 ans, lorsque vous avez terminé votre cursus, vous aurez un vrai diplôme qui vous permettra de trouver un travail. Pourquoi pas ? Et Samsung s'engage non pas à embaucher des élèves, parce qu'ils n'ont pas en France d'équipe de développement de web, mais peut-être, comme ils ont énormément, enfin un carnet d'adresses énorme, peut-être vous trouvez un travail. Donc, c'est
plutôt
sympa.
Il y a quand même, je crois, un mentor par élève qui vient de chez Samsung.
Et c'est ça qui vient aussi.
Pour les aider à progresser.
Exactement. Vous avez un salarié Samsung qui s'occupe d'un élève et qui lui montre un petit peu comment ça se passe dans la vraie vie professionnelle. C'est
pas mal. Et d'ailleurs, nous étions sur Planète PME, ce qui m'a permis de voir le directeur de l'école 42, qui m'a dit qu'il pensait avoir 80 000 demandes d'inscription là pour la prochaine rentrée. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'attentes de la part des jeunes pour se former au numérique, sachant qu'il n'y a que 900 à 1000 places maximum dans cette école.
Donc là, il va falloir vraiment être motivé. La piscine, ça va être chaud, là.
La piscine, ça va être chaud. Et à la sortie, la promesse, c'est 50 propositions d'emploi par étudiant.
Incroyable.
Donc ça, c'est délirant.
Ça prouve en tout cas la demande forte des entreprises concernant ces nouveaux métiers, entre autres de codeurs ou de développeurs web. Un petit point sur l'écho dans le monde des nouvelles technologies. C'est la marque Devialet, qui est une marque très haut de gamme, qui a levé de l'argent cette semaine.
Ouais, 25 millions d'euros. Alors auprès des généreux donateurs Bernard Arnault, Marc Simoncini, Xavier Niel et Grandjean, enfin on les connaît, c'est la même équipe qui d'ailleurs avait déjà donné 15 millions d'euros en 2012 à Devialet. Là c'est 25 millions, donc ce sont des enceintes effectivement de luxe, faut compter entre 1500, 3000 euros.
Voilà, vous savez.
Mais ils ont créé la surprise au CES à Las Vegas avec une enceinte fantôme. Mm-hmm. Enfin, qui s'appelle Fantôme.
Oui, qui est pas existe fantôme, bien. Qui existe vraiment, ouais.
Et la promesse d'un son ultra dense. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion. Ouais. De l'écouter.
Alors déjà, elle est magnifique. C'est une enceinte qui est superbe. On dirait un petit objet de Star Wars. Elle est vraiment très très belle. Et alors, elle a un son incroyable. Bon, c'est 1500 euros l'enceinte. Hein. Elle est connectée. Vous pouvez bien sûr écouter de la musique via Spotify, Deezer, etc. Enfin, c'est une vraie enceinte multi-room. Et le son est superbe. Et vous pouvez en avoir plusieurs si vous avez beaucoup d'argent. Vous pouvez en mettre plusieurs dans votre maison. Il n'y a pas de souci.
Donc 88 brevets, je crois, elle seule, cette enceinte. Donc c'est voilà une pépite technologique
française en
Exactement.
Plus. Toujours dans l'écho, Delphine, c'est Samsung qui, encore une fois, fait un joli pont à une start-up française qui est du sud-ouest de la France.
Oui, alors là aussi, autre pépite à Toulouse, Sigfox, spécialisé dans l'Internet des objets. C'est un réseau qui permet aux objets de la maison de communiquer entre eux. Eh bien, ils ont accepté de laisser rentrer au capital Samsung. Alors, on ne connaît pas le montant, hein, on n'a pas le montant de la transaction. Mais c'est quand même une belle revanche aussi pour Sigfox. Il y a eu pas mal de propositions, mais aussi des refus qui étaient un peu en colère contre certains grands acteurs français
qui n'ont pas voulu les suivre.
Voilà, sans les citer. Et voilà, bon, bah, belle revanche. Ouais, et donc, on espère pouvoir nous-mêmes aussi faire peut-être une visite chez Sigfox bientôt. Voilà, 01net serait content de faire un reportage là-bas.
Voilà, et d'ores et déjà, vous pouvez écouter une interview très intéressante de l'un des fondateurs de Sigfox sur 01net TV, puisque Christophe Fourté, qui est l'un des deux cofondateurs, avait répondu à nos questions il y a quelques jours de cela. À noter que l'accord avec Samsung va au-delà d'un accord financier, puisque Samsung s'est engagé à intégrer la technologie Sigfox sur tous ses objets connectés qui sortiront dans les années qui viennent. Il faut savoir que Samsung a l'envie de déployer toute une gamme d'objets connectés, de surveillance, etc. Et à l'intérieur, il y aura la connectivité Sigfox. Ça représente 200 millions d'objets connectés quand même. Hein.
Oui. Et quand on parle d'objets connectés, c'est pas les wearables, les petites montres et les bracelets. Hein. On parle vraiment d'objets de la vie quotidienne.
Exactement. On termine avec Microsoft. Il y a du grabuge chez Microsoft.
Oui, ça bouge pas mal. C'est surtout le départ de Stéphane Elop, hein, qui a pas vraiment surpris, mais qui est assez important puisque c'était le PDG de Nokia et qui s'occupait donc de toute l'activité terminaux mobiles.
Mais c'est lui qui a réussi à vendre Nokia à Microsoft quand même.
C'est ça, voilà. Et ensuite, il s'est fait embaucher par Microsoft pour assurer la continuité.
Mais pas longtemps, visiblement.
C'était un proche de Steve Ballmer aussi. Donc là, Satya Nadella est quand même en train de faire le ménage. Les copains de Steve Ballmer, il y en a 4, je crois, là, qui vont partir dans les jours qui viennent. Et il place ses propres pions. Faut dire que là, Satya Nadella a une stratégie assez claire. On a l'impression que vraiment, il sait ce qu'il veut. Mm-hmm. Et il est plutôt convaincant. Moi, je trouve que la build de Microsoft cette année montrait que on avait un nouveau visage avec des outils compatibles avec tous les terminaux et tous les OS.
Voilà, et Windows 10 qui arrive fin juillet. Donc, merci beaucoup Delphine Sabatier, directrice des rédactions de 01net.com. Vous restez là, la suite et la fin de l'atelier dans un instant, avec entre autres le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Le crash test d'Antoine dans un instant. Les îles abandonnées, ce sera le thème de ce crash test. Mais auparavant, notre Silicon Zango, vous le savez, comme chaque semaine, avec Renaud Darbaro depuis l'Asie, mon cher Renaud.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de l'atelier numérique sur BFM Business. Bienvenue dans le Silicon Zango, pastille sonore temporaire dédiée à la Chine numérique. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de Gao et de Shen. Oui, j'ai envie de vous parler de choses élevées et profondes, une fois n'est pas coutume, diront certains. Le seul ennui, c'est que combiné, ces deux caractères se transforment en abscon. C'est comme abstrait, mais avec con à la fin. Alors pourquoi ? Parce qu'en arrivant au travail trempé par les pluies de juin qui s'abattent sur Shanghai, je fais mon tour de web à la recherche des dernières nouvelles en matière de digital et de Chine. Et là, sur quoi tombais-je ? Sur cette magnifique perle communicante de points ouvrés les guillemets. Le centre convergent de nouvelles est un nuage hybride omnimédia basé sur une infrastructure de nuages hybrides et il utilise la technologie des mégadonnées. Là, je fais une pause pour vous laisser digérer, mais pas trop longtemps. Je poursuis parce que c'est comme le Nutella. Quand on a mis la cuillère dans le pot, il est compliqué de s'arrêter à moins de penser très 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 fort à des rangées de palmiers. Donc, deux points, ouvrez les guillemets. Il se compose de deux parties. un nuage public situé en dehors de la chaîne de télévision avec des capacités d'édition à faible débit binaire et un nuage privé au sein de la chaîne de télévision qui offre une haute définition et des capacités d'édition vidéo à 6 couches. Eh oui. Voilà, c'était mon bonheur du matin et rien que pour cela, parce qu'il m'a fait oublier cette sensation de n'être qu'une vieille serviette après la douche, que je remercie la société Huawei et son patron, Eugene Fei. Bon, parce qu'il y a peut-être des gens que cela intéresse, on peut supposer que cette annonce correspond à un système de stockage et de gestion des données issues des entreprises de télévision. C'est amusant parce que ces deux phrases, issues de l'entreprise spécialisée dans l'infrastructure informatique et les télécoms, me font penser à ce que j'obtiens quand je passe l'intégralité d'un communiqué de presse en chinois dans la moulinette Google Translate. Ainsi, ce matin, j'ai eu aussi le droit à cela. Deux points, ouvrez les guillemets. Récemment, les Dauphins offrent la chaîne d'approvisionnement de l'application de la chaîne de Dauphin complète version 2.0 mise à jour, l'application mise à niveau avec accès direct à l'interface de marchandises du centre commercial d'améliorer grandement l'expérience utilisateur. Vous allez me dire qu'on entrevoit tout de même un sens caché au fond de ce puits lexical. Oui, c'est vrai, c'est même ce qui me sert d'ingrédient de base avant de le passer aux équipes chinoises de l'atelier qui, elles, vont en extraire la vraie substantifique moelle qu'on dit ici « ren wuji », soit « très chose qualité ». Vous allez me dire, quel est le point commun entre le centre convergent de nouvelles et les dauphins ? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est leur origine. Huawei et Flipper sont tous deux issus de Shenzhen, d'où vient, mais ce n'est qu'un heureux hasard, hein, Tencent. Et oui, oui, vous savez, il vous manquait celui-là. Tencent Gong Yuo Sen Gong Se, mais je vous en reparlerai de celui-là une fois que j'aurai appris à le prononcer. Quoique, sans attendre, finalement, quelques nouvelles pas si éloignées du centre de convergence, puisque le géant vient d'investir dans Tut Genomics, une entreprise américaine située dans l'état de Utah, spécialisée dans l'analyse, dans le nuage du cloud ou inversement, des données issues du séquençage génétique. Alors comment Tencent a été initié Tut au milieu de l'état de Utah? Probablement parce que le président de la start-up, Kai Wang, a fait une partie de ses études en biologie moléculaire à Beijing. Voilà, à la semaine prochaine pour un prochain Silicon Chongguo que j'espère plus abstrait, soit Chaoxiang Capscon.
Renaud, merci et place maintenant à notre crash test pour terminer cet atelier numérique. Et mon cher Antoine, on va s'intéresser cette semaine aux îles abandonnées.
Oui, les îles abandonnées, voilà, il y a des îles qui sont totalement abandonnées, il s'y passe absolument rien.
Merci pour ce crash test, Antoine.
Non, mais vous allez voir, elles sont assez nombreuses, et alors, l'avantage, c'est quand vous avez un ordinateur, ou une tablette, ou un smartphone, Vous pouvez vous balader sur les îles abandonnées, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations.
Cela dit, elles ne sont pas totalement abandonnées, puisqu'elles sont sur Wikipédia.
Alors oui, mais il y a même pas besoin. Wikipédia, bien sûr, elles y sont, mais il y a des sites plus spécialisés. Hein, par exemple, il y a un site qui s'appelle unmondedaventure.fr, et sur ce site, vous allez trouver une véritable nomenclature des îles abandonnées. Alors, les îles abandonnées se caractérisent par le fait qu'elles ont de très jolis noms. Vous avez par exemple une île abandonnée au nord de la Russie qui s'appelle l'île Solitude.
Et parce qu'il ne doit pas avoir grand monde dessus.
Et non, elle est située en plein milieu d'une mer qui s'appelle la mer de Kara, donc c'est au nord de la Russie. C'est une île qui
doit faire bon là-bas. Hein.
Oui, elle fait 10. vous ne croyez pas si bien dire. Elle fait 18 kilomètres de longueur et elle est totalement prise dans les glaces. Alors, il y a une autre île qui, elle, est au large de l'Australie, qui s'appelle l'île Christmas. Donc, c'était...
C'est voilà, rigolo, ça.
Voilà, et oui, donc l'île Noël. Alors là, il y a une caractéristique sur cette île qui la rend probablement relativement inhospitalière, en dépit du fait que la météo est quand même beaucoup plus
clémente
que dans l'île de la solitude. Eh bien, c'est le fait que des millions de crabes rouges fleurissent sur les plages de l'île Christmas dès les premières pluies tropicales. Voilà. Donc,
ça va faire drôle quand même. Vous êtes là tranquillement allongé sur la plage et vous faites attaquer par des crabes.
Voilà. Alors, autre île qui est tout aussi abandonnée, pour d'une raison différente, mais quelque part semblable, c'est l'île Tristan d'Acunha. Alors, cette île Tristan d'Acunha est un archipel volcanique qui est situé dans l'océan Atlantique Sud. Alors, le Tristan d'Acunha, eh bien, la caractéristique, c'est tout simplement qu'il y a un volcan qui s'appelle le Queen Mary's Peak, qui de temps en temps fait des éruptions terribles, et donc l'île était habitée, mais en 1961 et 62, il y a eu une éruption tellement violente que là
tout
les
monde
gens,
a dit, bon,
ouais ouais,
on
les
on
gens
partir.
Se sont dit non là vraiment,
on va
vraiment,
changer d'île,
on va partir. Alors en Polynésie française, il y a une île qui s'appelle l'île de Rapa. Alors, elle est tellement escarpée, par exemple, qu'il est absolument impossible d'y atterrir en avion. Donc, pour une île éloignée, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est une île qui est tout à fait abandonnée, mais qui est un territoire français officiellement. L'île Rapa. Voilà. Alors, il y a plein d'autres noms assez sympas.
On ira, non, on n'ira pas.
Hein, voilà. Alors, il y a une île qui s'appelle la Banaba. L'île de Banaba, elle avait une population. Et figurez-vous que la totalité de la population, qui était les Banabans, a été décimée lors de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah bon ?
Et donc, c'est le reste de cette population, parce qu'il y a quand même eu quelques survivants, ont été installés sur une île voisine qui s'appelle Rabi. Et donc, du coup, ils ont abandonné l'île de Banaba. Et en plus, comme l'île est ceinturée d'une barrière de corail qui rend l'accès difficile, voilà, bah ça a changé complètement la situation. Alors, il y a plein d'autres îles qui ont des noms assez amusants. Il y a notamment les îles du désappointement.
Donc, les îles du désappointement.
Voilà, c'est très sympathique. Il y a l'île de la déception aussi, qui est une île de l'archipel des Shetland du Sud.
Ah ouais.
Voilà, dans lequel il y a une espèce de petite base scientifique quand même. Voilà.
C'est pas bon d'aller passer ses vacances là-bas, ça commence mal.
Et puis alors, il y a aussi des îles qui s'appellent, alors me demandez pas pourquoi, mais qui s'appellent les îles Sewing Machine Needles, autrement dit les îles aiguilles de machine à coudre. C'est quand même un,
bizarre,
voilà, j'imagine qu'il doit y avoir un relief,
oui,
qui doit évoquer ces
escarpé,
îles. Mais ça,
oui,
c'est, il y a pas de détails sur cette île-là. Alors, figurez-vous qu'il existe aussi, et là, c'est un article du Huffington, on n'est plus cette fois-ci sur le site Île Abandonnée, on est sur un article du Huffington Post, donc on est toujours par excellence sur la toile. Et donc, c'est un article d'Alexis Ferenczi qui est sorti il y a 2 ans et qui, figurez-vous, parle d'une île abandonnée en plein milieu de New York.
Non.
Si.
En plein milieu de New York.
Entre Manhattan et l'aéroport de LaGuardia. Donc, en plus, l'aéroport qui est le plus proche de Manhattan.
Ouais, oui.
C'est un aéroport qui était le premier aéroport de New York, qui est beaucoup plus proche de la ville et plus petit aussi
que celui de JFK.
Donc, entre Manhattan et l'aéroport de LaGuardia se trouve North Brother Island, un petit bout de terre qui est entouré par les eaux. Et donc, il y a un reportage photo qui a été fait dans cet endroit totalement inexploré. Et alors en fait ce caillou qui est désert aujourd'hui ne l'a pas toujours été, parce que en réalité cette île a été utilisée comme hôpital avant d'accueillir en 1885 une aile qui a été dédiée à la mise en quarantaine d'individus touchés par la fièvre typhoïde et par la variole. Et dans les années 50, l'île a été transformée en centre de désintoxication pour héroïnomanes. Mais cette île, donc, a été abandonnée depuis 1963. Et donc, après avoir fermé les hôpitaux, la ville a essayé de vendre l'île en question à des investisseurs privés. Hein, donc, c'est une petite île. Elle est quand même vraiment au milieu de l'eau. Hein, elle n'est pas entourée. Il n'y a pas des petits bouts de canal ou de rivière.
C'est une vraie île.
C'est une vraie île. Mais évidemment.
Mais qui est à proximité de Manhattan, j'imagine.
Ah, ben oui, elle est au milieu d'une espèce de bras de mer, hein, puisque le New York est quand même une ville qui est une alternance d'îles et de presqu'îles.
Hein,
et il y a eu un projet de prison qui a été fait, mais qui n'a pas été finalement mené jusqu'au bout. Et il paraît que cette île, qui est un peu une île de la folie finalement, pourrait avoir notamment inspiré Shutter Island. Donc voilà. Alors cette île est bizarrement n'a pas trop souffert du vandalisme. L'ancien hôpital, la dernière occupante était une femme qui s'appelait Marie Malone, également connue sous le nom de Marie Typhoïde. Voilà, enfin bon, mais c'est quand même assez intéressant. Et puis alors, quand même, de temps en temps, il faut aller sur le papier, mais pour aller sur le papier aujourd'hui, rien de tel que de passer par le web. Mmh. Et donc, si vous cherchez un livre sur les îles abandonnées, bah, vous allez le trouver sur Internet, vous allez pouvoir l'acheter sur Internet. Moi, j'ai trouvé la référence de ce livre sur babelio.com. Et donc, c'est un livre d'une personne qui s'appelle Judith Chalansky et qui s'appelle L'Atlas des îles abandonnées, dans lequel vous allez trouver, évidemment, certaines des îles que j'ai mentionnées, d'autres que je n'ai pas mentionnées, mais pas toutes les îles que j'ai mentionnées.
Passionnant, hein, ce sujet, les îles abandonnées. Merci beaucoup, Antoine, pour ce crash test. Et c'est avec ce crash test d'Antoine que nous allons terminer cet atelier numérique. Merci d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. Bien sûr, on sera là le week-end prochain entre 16h et 18h sur BFM Business. D'ici là, passez un bon week-end à tous. Salut.